Marceau le midi.
Ah, je vous le dis, si vous avez des projets pour cette semaine, j'espère que ce sera à l'extérieur et non à l'intérieur de vos maisons. Bon, si c'est le cas, avec un peu d'air climatisé, vous allez vous en sortir, mais que du beau temps jusqu'à vendredi. Je regarde le topo actuellement, c'est quoi? C'est 22 degrés, un maximum de 25 pour aujourd'hui. Avec le facteur humidex, ça pourrait être une température ressentie de 27. Ce soir, ciel dégagé avec un minimum de 13 degrés. Demain mardi, du soleil, maximum de 24. Mercredi, ensoleillé, maximum de 28 degrés. Jeudi, ce sera ensoleillé avec un maximum de 29. Vendredi, ensoleillé avec un maximum de 29 degrés. Et si je vais plus loin, même pour le week-end, alternance de soleil et de nuages pour samedi, maximum de 27. Seulement en soirée, un 30 % de probabilité d'averse pour samedi, minimum de 19 degrés. Et dimanche, alternance de soleil et nuages avec un maximum de 31 degrés. Donc, super de belles semaines qui se dressent devant nous, côté météo, les amis. Pascal!
Yannick!
Est-ce que notre invité est en ligne?
Absolument! C'est son retour à l'émission.
Allons-y de ce pas. Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Salut!
Salut à vous!
T'as-tu eu le temps de prendre des vacances un peu cet été?
Plus ou moins, c'est pas encore prévu à l'agenda. Je profite de mes week-ends, par exemple, mais les deux dernières semaines, c'était disons que j'étais un peu dans mon bureau, puis on préparait un peu des documents, des rapports qui vont sortir au cours des prochaines semaines. Mais ma semaine de vacances, ou du moins mes vacances, sont prévues pour début septembre. Donc moi, j'attends la fin de l'été pour en prendre. Puis j'espère que les autres en profitent de leur côté.
Ouais, l'été a été un peu décalé hein, comparativement à ce qu'on pouvait vivre dans notre enfance. Là. C'est sûr qu'on a trois générations différentes. Quoique, t'es pas mal plus près de Pascal que moi, je peux l'être. Mais je me souviens, moi, que dans les années 80-90, là, l'été, c'était pas, ça commençait pas au mois d'août. Là.
Non, on avait l'impression que dans mon temps, c'est pas comme
dans mon temps.
Vieux que ça. Dans mon jeune temps, il me semble que l'été commençait vers la fin mai, puis on dirait que cette année, ben le mois de mai était particulièrement froid, il pleuvait plus, fait qu'on sortait moins, ou du moins on prévoyait moins de voyages à ce moment-là, donc c'est drôle, mais ben, au final, je veux dire, on en profite pareil, c'est juste qu'il y a un décalage, qu'on doit simplement s'arranger avec ça, mais ben pour le reste, ouais, ça reste quand même un bel été, je veux dire, cette semaine, il annonce quand même une bonne température, du moins dans mon coin de pays à Laval, je sais pas dans votre coin à quoi ça ressemble à Québec pour cette semaine, mais on continue d'en profiter malgré tout.
Ben, vous étiez l'endroit le plus pollué au niveau de la qualité de l'air dans les derniers jours. Là. Fait qu'arrête de te vanter. Là. Toi et Montréal. Là. Laval et Montréal, c'était l'endroit le plus pollué au monde.
Oui, apparemment, on est pire que Jakarta et New Delhi, Mumbai, Beijing et compagnie. Bon, c'est vrai que les feux dans les prairies, ça apporte leur lot de d'émissions, de composants dans l'air qui font en sorte qu'effectivement, la qualité est moins bonne qu'elle devrait l'être. Ouais. Mais bon, je sais pas à quel point c'est... Je sais, j'ai pas regardé les études pour vrai, donc je vais pas trop m'exprimer là-dessus, mais je sais pas à quel point c'est vrai que notre qualité de l'air est moins bonne que dans certaines des pays et régions de la planète où est-ce que c'est réputé pour avoir des smogs à répétition.
Ouais.
Mais bon, c'est pas la première fois qu'on doit composer avec des feux de forêt. On se rappelle l'année passée, je pense en 2024, quand il y avait des feux au Québec, on avait quand même vu des smogs assez impressionnants qui s'étaient rendus jusqu'à New York. Donc, ça reste une réalité avec laquelle on doit composer, mais il y a toujours manière de profiter de l'été malgré tout. Là.
Mais c'est un peu la première fois qu'on est autant confronté, à moins que je me trompe, on le voyait ailleurs dans le monde, mais de là à couper nos journées d'été, puis c'est un phénomène qu'on peut rien faire, là, puis de voir justement que c'est tellement brumeux, qu'on n'a pas tant de soleil, que c'est gris, mais sans cette brume-là, on aurait une superbe journée. C'est là où ça devient vraiment tangible.
Le soleil disparaissait avec la fumée qu'on recevait. Mais bref. Hey, je regardais les récentes données du Conseil du Trésor qui nous parlent des pensions de nos ex-députés fédéraux. Nick, je trouve ça hallucinant, leur pension de retraite. Bon, c'est des gens qui ont donné à la société, on va se le dire, seulement 6 ans. Mais n'en demeure pas moins que quand tu fais 2 mandats, 6 ans minimum, tu as accès à une pension annuelle quand tu as été député fédéral. Et ce qu'on comprend, c'est que les paiements suivent l'inflation et ont augmenté depuis 2021 de 12,5 %. Quand tu as fait 6 ans comme député, ta pension à partir de 65 ans, c'est 81 140 $ et plus jusqu'à la fin de ta vie.
Exact, parce qu'il faut rappeler que, comme tu l'as mentionné, ça prend juste 6 ans pour un député fédéral pour toucher la pleine pension. Il faut rappeler aussi que c'est un pourcentage qui est calculé en fonction de leur salaire. Donc, après 6 ans de service, ils ont quand même droit à une bonne pension. En fait, on avait fait le calcul de notre côté, au niveau de la fédération, pour avoir, comment dire, un cumulatif de tous les coûts des pensions des députés qui ont quitté, en fait, la politique au courant du dernier cycle électoral, parce qu'on se rappelle qu'on a eu des élections quand même le 28 avril dernier, qu'on avait sorti le chiffre comme quoi ça coûtait pas loin de 187 millions de dollars, ou du moins que ça allait coûter jusqu'à 187 millions de dollars en pension pour tous les députés qui ont quitté la politique et qui ont droit à la pension justement jusqu'à l'âge de 90 ans. Ou du moins, nous, on a calculé jusqu'à l'âge de 90 ans parce que c'est à peu près dans la moyenne d'espérance de vie. Donc, en se basant là-dessus, on réalise à quel point effectivement les députés vont simplement cotiser pour leur fonds de pension pendant 6 ans et avoir droit à une pension à vie dès l'âge de 55 ans. En fait, en théorie, c'est dès l'âge de 65 ans, mais ils peuvent l'empocher dès 55
ans,
avec une pénalité dessus, mais à chaque année, ils récupèrent un pourcentage sur leur pension. Donc, au final, faut rappeler, là, les députés à Ottawa, comme au Québec, sont quand même, on va se dire, pas nécessairement gros durs au Québec, mais pas mal plus à Ottawa. Surtout qu'on a un salaire d'environ 210 000 $ par année et qu'on est un simple député backbencher. Donc, imaginez la pension qui est calculée là-dessus. Ça devient très intéressant
mais,
à long terme.
Mais on a-tu encore les moyens? Sachant que le Canada est dans le trou là, pour des décennies et des décennies, là, en fait, c'est pour plus de 100 ans que le Canada est dans le trou, on a-tu encore les moyens de dire à un employé du gouvernement, « Hey, tu vas venir faire un service chez nous pendant 6 ans, puis après ça, ben, on va te donner 81 140 $ par année, et ça jusqu'à ta mort. Puis si tu meurs, ben on s'arrêtera pas. Là. On va donner une partie à ta femme, bien entendu, puis tu vas avoir une rente du survivant aussi pour ce qui est de tes enfants. Donc, un certain montant qui va être octroyé pour ce qui est de tes enfants aussi. On a-tu encore les moyens ou on devrait peut-être réfléchir? Tu as fait 6 ans ou tu as fait 10 ans, ça va être un 6 ans ou un 10 ans de pension parce que je pense à tous ceux qui nous écoutent présentement, qui sont dans leur voiture ou encore au bureau, qui entendent ça. Là. 6 ans chez un employeur, tu as une pension à vie après. Nick, on se fait voler en plein jour. Là.
Ben, écoute, pour répondre à ta question, non, on n'a pas les moyens de payer ces pensions-là pour plusieurs raisons. Quand on regarde l'état des finances publiques à Ottawa, on n'a clairement pas les moyens de donner des privilèges de même. De deux, tu l'as dit toi-même, les gens qui écoutent dans leur voiture présentement, eux, ils payent toute leur vie pour avoir droit à une pension qui est une fraction de ce que les députés à Ottawa vont obtenir pour 6 ans de service. En plus, faut le rappeler, je veux dire, quand vous êtes élu à Ottawa, bon, je sais que ça vient avec une charge de responsabilité. Je sais que vous êtes loin de votre famille dans plusieurs cas parce que on t'entend, un député, par exemple, de la Colombie-Britannique ou un député, par exemple, aux îles de la Madeleine, quand il s'en va à Ottawa, il est pas à côté de chez eux. Mais il n'en reste qu'un simple backbencher, fait pas loin de 210 000 par année. Il rentre là, il n'y a pas de responsabilité parlementaire et soudainement, il se retrouve avec un des salaires les plus élevés parmi tous les élus à travers le monde. Il faut rappeler que les élus à Ottawa sont les deuxièmes mieux rémunérés au monde. Il y a juste les députés, les élus de la Chambre des congrès aux États-Unis qui font un meilleur salaire et c'est pas mal les seuls sur la liste. Maintenant, quand on regarde le coût, ben il faut aussi se poser la question, finalement, c'est pourquoi est-ce qu'on maintient ces mécanismes-là? Et souvent, la réponse qu'on nous donne de la part justement des mêmes élus à Ottawa, c'est de nous dire, ben il faut continuer à attirer des pointures en politique pour garder le poste alléchant, pour attirer une certaine expertise, attirer des gens qui ont des bons backgrounds et aussi qui ont de l'expérience qui pourraient rendre en fait là, les politiques publiques mieux adaptées ou amener des meilleures solutions. Mais quand on regarde le bilan d'Ottawa au cours des dernières années, ben on n'a pas vraiment vu les meilleurs résultats. On a vu plus de taxes, plus d'impôts. On a vu un État qui a augmenté en termes de taille, en termes de coûts, et on a vu une dette qui a doublé par-dessus le marché alors qu'on est sur le point de tomber dans une récession puis une guerre commerciale par-dessus le marché. Donc à la fin, est-ce que ça vaut la peine de payer autant pour les députés? Quand on voit les résultats qu'ils nous donnent, je pense qu'avant de se mettre à leur donner des pensions puis autant de privilèges comme on le fait présentement, on devrait peut-être essayer de réviser autant le nombre de députés qu'à la Chambre des communes, que aussi de voir finalement est-ce qu'on en a vraiment, est-ce qu'on a besoin autant de leur donner de privilèges pour sur aussi peu d'années de service comme on le fait présentement.
T'sais, je m'entraînais en fin de semaine, j'en ai rencontré un député fédéral, puis il justement me jasait qu'il partait 3-4 jours par semaine pour revenir chez lui. Lui, chez lui la fin de semaine. Puis là, ben, de cet incite, il est en congé, bien entendu. Mais à 210 000 $ par année, là, ça t'empêche pas de trouver des gens de qualité. Là on leur donne 210 000 $ par année, plus s'ils font 6 ans au gouvernement fédéral comme député, on leur donne 80 000 $-85 000 $ par année jusqu'à la fin de leur jour. C'est gras en sacrifice, puis il faudrait dégraisser ça.
Il y en a beaucoup des backbenchers au fédéral, vous l'avez souligné là, en début de conversation, mais il y en a beaucoup. C'est pas comme au provincial non. Où on est plus sur le terrain et tout ça.
Je pense aux camionneurs qui nous écoutent. Là. Il y en a qui font du Québec-US. Là. Des fois, ils sont 2 semaines partis de la maison. Ils font du 70-80 heures par semaine, puis ils font du 80-85 000 par année, Nick, là. Puis les autres, leur fonds de pension, là, il faut compter sur leur fonds de pension à eux aussi. Ils travaillent pour une entreprise qui en ont un, mais sinon, ils placent des REER puis ils mettent ça dans les CELI. Pourquoi ces députés fédéraux-là sont si gras au niveau de ce qu'on leur donne? Je trouve ça aberrant, puis il faudrait se pencher là-dessus, mais en même temps, il faudrait que ce soit eux qui mettent ça en place. Donc, on va oublier le projet.
Ben exact. Ben, de la même manière qu'on les interpelle à chaque année, parce que non seulement les députés ont droit à ces privilèges-là, mais il faut rappeler qu'à chaque année, à chaque 1er avril, ça, je me fais toujours un plaisir de faire un genre de décompte à chaque année, ben les salaires augmentent. Leur salaire est constamment augmenté sans qu'il y ait un vote qui ait lieu à la Chambre des communes, parce que bon, c'est facile d'augmenter son salaire, mais on veut pas non plus le faire devant tout le monde. On veut pas que les gens soient témoins du fait que les élus votent pour augmenter leur propre salaire, comme on l'a vu il y a pas si longtemps au Québec. Là, on se rappelle l'augmentation de 30% pour les élus à l'Assemblée nationale. Mais à Ottawa, je veux dire, les salaires ont constamment augmenté, même durant la pandémie, alors que la plupart d'entre eux ne siégeaient pas. Et donc, il y avait tant de Canadiens qui n'étaient plus en mesure de travailler ou que leurs entreprises étaient fermées. Bien, les salaires continuent à augmenter malgré tout. Donc, d'une part, on a droit à ça. D'une autre part, on a aussi droit à un paquet de transition. C'est-à-dire, quand on perd son comté, ou du moins, quand on sort de la politique, essentiellement, on a droit à pas loin de la moitié de notre salaire ou l'équivalent de 6 mois de salaire de transition. Donc, ils ont quand même droit à des privilèges que le commun des mortels n'a pas. Et trop souvent, puis je veux dire, c'est pas pour faire une pointe envers un député précis, mais on va se dire franchement, on n'a pas l'impression qu'à Ottawa, il y a les plus gros dossiers qui nous touchent directement avancent. On n'a pas non plus l'impression d'avoir les meilleurs services ou la meilleure représentation. Je veux dire, en tout respect, oui, on a eu une élection il y a pas longtemps, le 28 avril, puis ça, c'est l'expression de notre démocratie. Mais quand on regarde comment est-ce qu'Ottawa gère les choses depuis plusieurs années, on dit finalement, ben comment ça se fait qu'on paye autant pour ce qu'il peut.
Exactement. J'ai l'impression qu'on s'en sortira jamais. Qu'est-ce qui fait en sorte que le Canada puis la Chine, c'est les deux seuls pays qui n'ont pas encore réglé avec le gros orange?
Pour plusieurs raisons. Écoutez, on s'entend que le gros orange, là, où Donald Trump, mettons, qu'on ne peut pas vraiment exactement comprendre ce qui se passe dans sa tête. Mais il y a une chose qui est sûre, le Canada est vraiment dans son collimateur. Là, on l'a vu depuis vendredi dernier. Ben, au moins, ça a été annoncé vendredi. On va avoir 35% de tarifs américains qui vont s'appliquer sur tous les produits qui sont hors ACUM, ce qui veut dire environ 9 à 10% des produits. Il faut quand même aussi prendre un pas de recul puis réaliser que c'est peut-être pas non plus si catastrophique, mais c'est loin d'être une bonne annonce non plus. Et ça démontre que pour l'instant, ben, elbows up, ça fonctionne pas très fort. On n'a pas vraiment de résultats, on n'a pas vraiment l'impression qu'il y a une entente qui s'en vient de manière intéressante entre le Canada et les États-Unis. Et ce qui me fait le plus peur, en fait, c'est qu'on a l'impression que pour l'instant, il y a de la pression de la part de certains premiers ministres, comme par exemple Doug Ford, qui aimerait ça que le Canada mette encore plus de tarifs, de rétaliation, donc des contre-tarifs, dans le but de monter le ton contre les Américains. Mais jusqu'à maintenant, ça nous a coûté très cher. D'une part, les tarifs américains commencent déjà à affecter nos entreprises. On l'a vu il n'y a pas longtemps, je pense que la Saint-Michel-des-Saints vient d'annoncer là, des départs massifs dans une scierie parce que, essentiellement, à cause des tarifs qui vont s'appliquer, ben, les entreprises américaines achètent moins de produits ou de bois d'œuvre du Québec, entre autres. Et donc, ça fait en sorte que on s'oriente vers d'autres fournisseurs et nos entreprises sont affectées. Mais d'un autre côté, nous, notre propre gouvernement applique des tarifs sur les produits qu'on importe des États-Unis. Et ça affecte le portefeuille des ménages. Il y a une étude de l'Institut économique de Montréal qui est sortie, en fait, dans les derniers jours qui démontre qu'au final, entre le mois d'avril et le mois de mai, le ménage canadien moyen a payé environ 90 à 100 $ en tarifs. Quand on fait le calcul total, dans une année complète, les tarifs vont nous avoir coûté par famille environ 550 $. C'est quand même assez énorme. Donc, sur les cinq prochaines années, on parle de 2750 $ en taxes ou plutôt en contre-tarifs qu'on va assumer. À la fin, on se fait avoir des deux côtés. Notre gouvernement nous taxe avec des contre-tarifs qui sont un peu invisibles à l'œil parce qu'ils sont cachés directement dans les prix des produits. Puis, d'un autre côté, on perd des jobs parce que les tarifs américains nous font mal. Donc, éventuellement, il va falloir savoir c'est quoi la véritable stratégie de Mark Carney à ce stade, parce que on a l'impression qu'il se passe rien et que la seule solution qui est sur la table, c'est d'encore plus faire mal aux contribuables et donc par extension à notre économie.
Mais on se posait la question, Yannick et moi, plutôt à l'émission, à savoir, bon, mais qu'est-ce que Pierre Poilievre fait dans l'opposition, mis à part critiquer Mark Carney? Est-ce qu'on est trop tôt dans cette situation-là qui est un peu du jamais vu en termes de conversation économique de l'âge moderne et occidental? On est habitué avec des leaders comme la Russie puis la Chine que ce soit très complexe, mais avec les États-Unis, peut-être pas autant?
Ben, c'est exact. Il y a quand même aussi le fait qu'on s'entend que ça fait à peine 7 mois qu'on est dans cette situation-là, parce que, veux pas, Trump qui est arrivé au gouvernement, ben, à la tête de la Maison-Blanche depuis simplement le 20 ou 21 janvier cette année. Donc, ça évolue extrêmement rapidement, mais il n'en reste que on réalise que le reste du monde est en mesure quand même de tirer son épingle du jeu. On l'a vu avec l'Union européenne, on l'a vu avec le Japon, on l'a vu avec la Corée. Donc, les autres pays sont en mesure d'arriver avec des ententes, mais aussi, l'avantage, c'est qu'ils ne s'imposent pas des contre-tarifs, et donc, la réalité, c'est que peut-être que le Canada n'a pas pris la bonne approche dès le départ au niveau des tarifs. On n'a peut-être pas dû s'engager dans cette surenchère tarifaire. On aurait peut-être dû simplement accepter le fait que peut-être qu'on va se retrouver dans un surplus ou plutôt les Américains vont tranquillement éliminer leur déficit commercial comme c'est l'intention initiale. Et de notre côté, on aurait pu éviter de se pénaliser puis plutôt de se tourner vers une autre approche, de dynamiser notre économie, de diversifier nos exportations, de trouver des nouveaux partenaires commerciaux. C'est sûr que ça ne peut pas se faire en 6 mois, parce que c'est une opération qui prend plus de temps, parce qu'il y a beaucoup de chaînes d'approvisionnement qui doivent changer, il y a beaucoup d'industries qui doivent carrément se transformer là-dedans aussi. Mais au final, l'approche aurait dû être beaucoup plus constructive. Puis on s'entend, là, l'opposition à la Chambre des communes ne peut rien faire pour les prochaines années, essentiellement parce que le gouvernement de Carney a quand même presque les coups des franches. Je veux dire, à quelques sièges près, ils ont presque un gouvernement majoritaire. Mais en plus de ça, il faut dire, sincèrement, que la solution n'est pas évidente. Mais ce qui est évident, par contre, c'est que la réponse de s'imposer des tarifs, ou plutôt des contre-tarifs dans le but de faire mal aux Américains, d'ailleurs, on fait partie des rares pays à l'avoir fait, et on est donc parmi les rares pays à se retrouver dans cette situation-là face à Donald Trump.
Mais ce qui est hallucinant, c'est que lui, pour justifier le fait qu'il s'en va jouer des tarifs puis qu'il enlève les ententes, il devait justifier ça par une crise nationale, quelque chose d'exceptionnel. Puis là, il avait parlé d'immigration illégale, puis il avait parler de fentanyl. Il semblerait que le fentanyl, ça provenait du Canada et des États-Unis. On a des chiffres, puis en plus, on a des études à l'appui qui mentionnent clairement que le fentanyl, ça vient pas du Canada. Écoute, en octobre 2024 et mai dernier, là, donc mai 2025, à la frontière entre le Canada et les États-Unis, les Américains ont intercepté 26 kg de fentanyl. Tu vas me dire, c'est beaucoup. T'as raison, ça peut tuer bien du monde. Mais si tu compares oui. ça aux Mexicains, là, nous autres, ils nous ont enlevés. Ben, en fait, ils nous ont enlevés. Du Canada aux États-Unis, il a passé 26 kg de fentanyl. C'est ce qu'on a perquisitionné. Et à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, c'est 3700 kilos de fentanyl. On parle pas de la même affaire. Donald Trump, c'est un menteur, ça, tout le monde le sait. Et quand tu utilises cet argument-là contre le Canada, c'est un argument qui est faux. Même chose au niveau de la crise migratoire. Il y a pas mal plus d'immigrants qui passent du Mexique vers les États-Unis que de Canadiens qui s'en vont vers les États-Unis. C'est de la grosse bullshit. Il y avait eu, il y a ça quelques mois, il y avait eu une plainte qui avait été déposée par le Canada à l'Organisation mondiale du commerce. Puis visiblement, ça n'a pas fait peur à Donald Trump. Est-ce qu'on sait où est-ce qu'on en est rendu avec cette plainte-là? Puis on va-tu la traiter d'ici 2055?
C'est une très bonne question. Ça se peut que Donald Trump ne soit plus là du tout quand ça va être traité en temps et lieu.
Il y a encore des gens qui défendent Donald Trump là-dessus, sur ces arguments-là. Je veux dire, à partir du moment où tu vas à l'encontre des études qui ont été faites, à partir du moment où tu vas à l'encontre des propres statistiques qui sont fournies par ton agence aux douanes, et en plus, ils ont sacré dehors, Donald Trump a sacré dehors la responsable des statistiques, là.
Il n'aimait pas ce qu'elle disait avec les statistiques.
Tu peux plus défendre Donald Trump sur ce point-là. Là. C'est un gros menteur qui a des objectifs pas mal plus gros que celle qui tend à dire qu'il veut avoir.
Qu'est-ce qu'il nous veut, Nicolas, de plus que partout ailleurs dans le monde, avec ses conversations avec les autres dirigeants, on a l'impression qu'il nous en veut plus qu'à d'autres?
Bien, écoutez, c'est comme je vous disais au départ, c'est très dur de savoir ce qui se passe directement dans la tête de Donald Trump, parce que je suis persuadé que lui-même, c'est pas trop des fois ce qui se passe dans sa propre tête.
Ah, moi, je me méfie de lui. Parce que...
Oui, ben moi aussi, je me méfie de lui, mais il faut dire aussi que autant que le personnage peut être, entendons-nous, il y a un côté machiavélien qu'il faut lui donner, mais à la fin de la journée, sa guerre commerciale, elle est basée sur la pire stupidité que j'ai jamais vue depuis très longtemps en politique. Autant la notion qu'un déficit commercial, c'est négatif, ça c'est complètement faux. Pas mal tous les économistes sur Terre vont vous dire que les déficits commerciaux, ça n'a pas vraiment d'impact. En fait, en réalité, un État qui est en déficit commercial, ça indique qu'il y a une grande ouverture aux investissements et au commerce international,
exact,
qui est généralement un bon indice à avoir.
Ouais.
D'un autre côté, comme tu l'as mentionné, Yannick, pas mal tous les autres éléments ou arguments qui ont été soulignés, comme la question des passages illégaux à la frontière ou du fentanyl, on sait, on représente à peine une fraction par rapport à ce que le Mexique laisse passer vers les États-Unis. Puis nous, notre côté, on a même démontré qu'il y a eu des investissements qui ont été faits par le gouvernement canadien pour lutter contre ça de manière assez agressive. Et malgré tout, ça s'est passé vraiment comme dans l'oreille d'un sourd. Et essentiellement, Donald Trump s'en fout complètement. Il y a une partie de moi qui a l'impression que Donald Trump, présentement, ce qu'il fait, c'est qu'il utilise un peu le Canada comme une manière d'envoyer un message à tout le monde. Parce que tout le monde sait que le Canada, c'est quand même un allié historique des États-Unis d'un point de vue économique, militaire et politique. Et le fait qu'ils s'en prennent à nous de manière aussi violente, c'est une façon de parler, mais de manière aussi directe, ça envoie un message à tous les autres, dont l'Union européenne et tous les autres, partenaires économiques des États-Unis, en disant, écoutez, si on est prêt à faire ça au Canada, pensez pas qu'on va hésiter à le faire à votre pays également. Et ça permet peut-être aux autres...
Ça serait un message.
Ça
serait un message, selon toi.
C'est un peu ce qu'on observe.
Ouais. Ça serait un message, selon toi. Ça a bien du bon sens. Tu sais, moi, j'ai lu son livre, là, The Art of the Deal, là, puis... Je ne peux pas croire qu'actuellement, il n'y a pas... Il veut pas... C'est-tu le 51e État qui veut...
C'est ça que je comprends pas.
Y a-tu quelque chose derrière? Parce que pour faire ça, puis il va à l'encontre de tout ce qui lui est conseillé, là. Pour faire ça, c'est qu'il y a une idée, puis à un moment donné, cette idée-là va émerger, puis on va dire, ah, OK, c'est ça qu'il voulait,
finalement.
Il est
encore plus cinglant avec nous versus d'autres anciens ennemis économiques. Nous, on a toujours été alliés. C'est là où... je comprends pas. Je ne suis même pas canique. Il y a quelque chose qu'on sait pas.
Ben,
ou il est complètement stupide.
Je pense qu'un argument de plus qu'on pourrait rajouter là-dedans, c'est la fameuse reconnaissance de l'État palestinien. Vous avez l'Angleterre puis la France qui se sont lancés là-dedans, aucune réaction des États-Unis. Mais dès que le Canada émet un communiqué en ce sens, soudainement, les discussions commerciales vont être complexifiées à cause de cette reconnaissance-là. Alors qu'au final, la France et les États-Unis sont l'Angleterre et les États-Unis sont dans cette relation économique et aussi avec l'Union européenne, avec toute la question tarifaire, sont dans une situation de très similaire à nous, mais nous, on est les seuls à payer pour cette reconnaissance-là. Donc, c'est un peu bizarre ce qui se passe, on va se dire franchement, mais je pense que la théorie selon laquelle il s'en prend à nous essentiellement pour forcer les autres à fléchir. Et d'un autre côté, je ne sais pas s'il veut nécessairement faire du Canada un 51e État, parce que ça a été plus souvent qu'autrement utilisé pour se moquer à la fois de Justin Trudeau et aussi pour une farce. Une farce plate qui revient à répétition, mais à la fin, il faut quand même à la fois tenir tête à Trump sans non plus se tirer une balle dans le pied comme on le fait présentement. Fait que c'est comme autant qu'il faut se soucier de la manière qu'il faut réagir à Trump pour ne pas se laisser intimider, d'un autre côté, il faut un peu l'ignorer et plutôt se concentrer sur comment est-ce qu'on peut renforcer le Canada pour justement ne plus être aussi dépendant des humeurs de la personne que